Aujourd'hui, nous sommes dans le quatrième message dans l'Épître aux Galates. J'appelle le message le Saint-Esprit et son fruit. En fait, nous abordons aujourd'hui le cœur et source de la vie chrétienne. En premier, nous parlerons au sujet du Saint-Esprit, et par la suite, les fruits du Saint-Esprit. Ce que la Bible enseigne sur le Saint-Esprit est bien différent que ce qu'enseignent les charismatiques et les pentecôtistes. Donc, pour être spécifique, les croyants ne reçoivent pas le Saint-Esprit plus tard, après le salut, comme une seconde bénédiction. Et la manifestation du Saint-Esprit ne commence pas par le faux parler en langue. Donc, on va voir ce qu'enseigne la Bible. La compréhension de la doctrine du Saint-Esprit et du corps de Christ a d'abord été révélée à Paul, puis à peu près, c'est pas exact, mais à peu près 40 ans plus tard, Jean a enregistré dans son évangile ce que Jésus avait enseigné sur le Saint-Esprit, le Consolateur, lors du dernier repas avant sa crucifixion. Et c'est pour cela qu'à travers ce message, nous allons souvent faire appel à Jean, l'évangile de Jean, donc chapitre 14, 15, 16, 17. Et pour vous dire, on va voir beaucoup de versets aujourd'hui. C'est surtout des versets qu'on va voir. Rappelons-nous que la dernière fois, nous avons vu que le baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire l'immersion dans le corps du Christ, dans les lieux célestes, par le Saint-Esprit, donc ce baptême du Saint-Esprit, par ce baptême, nous sommes devenus enfants de Dieu. Quand on est croyant en Jésus-Christ, il y a plein de transactions spirituelles que Dieu a faites en notre faveur. Nous, on a fait une seule chose, croire au Seigneur Jésus, et Dieu a fait tout le reste. Et par cela, par tout ça, nous sommes devenus enfants de Dieu. Avant de subir la croix, Jésus a promis dans Jean 14, 18 de ne pas nous abandonner, de ne pas nous laisser orphelins, donc de nous recevoir dans sa famille et de nous accompagner par son Saint-Esprit qu'il a appelé le Consolateur. En regardant dans Galates chapitre 3, versets 26 et 27, Galates 3, 26 et 27, et là nous lisons 3, 26, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés, donc j'ai déjà expliqué ce terme, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Donc, en Galates 4, 6, étant adoptés par Dieu, il dit, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie, donc Dieu en nous, crie à Dieu, le Père, Abba, Père. On a parlé de ça la dernière fois. Frères et sœurs, nous sommes enfants de Dieu. Par la foi, en l'Évangile, Jésus-Christ est en nous. Paul a dit dans Galates 2, 20, il a dit, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, donc, au fur et à mesure que je continue de vivre ici dans mon corps mortel, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. C'est-à-dire qui m'a sauvé par la croix. Mais ce n'est pas seulement Christ qui est en nous. le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ, le Saint-Esprit habite en nous aussi. Et c'est par le Saint-Esprit que nous sommes unis en Christ, unis à Christ, unis en Christ, et que nous sommes donc en relation avec le Père Céleste. Donc on regarde dans le Galates chapitre 3, verset 1, dernière moitié du verset. Et des fois, je supprime des mots, ce n'est pas les versets, donc vous devez regarder les versets vous-même à la maison, lire toute l'épître aux Galates pour avoir tout le contexte. Donc Paul dit dans Galates 3, 1, deuxième partie, il pose comme question, mais la réponse est oui, c'est par la foi que nous avons reçu l'Esprit. Donc je le mets en affirmation, vous avez reçu l'Esprit par la prédication de la foi. C'est-à-dire, comme Paul a dit aux geôliers, croire au Seigneur Jésus et tout sera sauvé. Ceci veut dire que vous êtes sauvés par la foi, du fait que vous avez confiance en Jésus-Christ par l'Évangile. Puis Paul répète dans verset 14, Galates 3, 14, encore la deuxième moitié du verset, en Jésus-Christ, nous avons reçu par la foi l'Esprit qui vous avait été promis. Promis où? Promis dans Jean 14, 15, 16 et 17. Jésus a prié dans Jean 17, 11, Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'il soit un comme nous. Il a dit aussi dans Jean 14, 11, croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Et puis, encore dans Jean 17, verset 21, Jésus a prié pour nous en disant, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi, donc ça c'est les croyants que nous sommes, on fait partie des croyants à travers le monde, à travers le temps, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je saute un peu. Afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux, donc Christ en nous, et toi en moi. Donc, quand on a Christ en nous, on a aussi le Père, et on a le Consolateur, le Saint-Esprit. Donc, on a la Trinité en communion. C'est-à-dire, nous, on est en communion avec le Saint-Esprit. Afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Donc, je répète, notre union avec Dieu, cette prière de Jésus pour notre union avec Dieu et notre union les uns avec les autres, est exaucée par la présence du Saint-Esprit qui demeure éternellement dans le croyant. Donc, je vais dire rapidement quelques enseignements du Nouveau Testament concernant le Saint-Esprit en nous. Okay, Romains 8, 23, donc je prends que les petits bribes. Nous avons les prémices de l'Esprit. 1 Corinthiens 3, 16, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et puis, un peu plus loin, l'Esprit de Dieu habite en vous. Éphésiens 5, 18, soyez remplis de l'Esprit. Et Éphésiens 4, 30, première partie, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Et encore dans 1 Thessaloniciens 5, 19, n'éteignez pas l'Esprit. Donc ça, tout ça veut dire que l'Esprit est là, il est en nous, et nous avons une relation, on peut le rendre heureux, on peut le rendre malheureux. Il est là. Il veut être en pleine communion avec nous, soyez remplis du Saint-Esprit. Mais si on l'ignore, il n'a pas beaucoup en nous. Ça, c'est dommage. Du côté négatif, Paul dit dans Romains chapitre 8 et verset 9, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ça veut dire que la personne qui n'a pas l'Esprit de Christ n'appartient pas à Dieu, que cette personne n'est pas sauvée. Quand on est sauvé, d'office, c'est le Saint-Esprit qui est là parce que c'est lui qui opère le salut. Il met en marche toutes les choses. C'est lui qui fait la nouvelle naissance en nous. Et puis Jude 19 dit que ceux qui provoquent des divisions sont des hommes animés par la nature humaine, c'est-à-dire ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Même si ils se disent chrétiens, hein, parce que dans le contexte de la cause d'Asie, il y a plein de monde qui se dit chrétien. Et comme dans l'église de Laodicée, Jésus est en dehors de l'église. Ça ne va pas. Il frappe à la porte de l'église. Si quelqu'un dans l'église veut être sauvé, qu'il sorte de cette autre chose-là. Parce que c'est une fausse, un faux christianisme. Frère, il faut insister sur la vérité que Dieu est saint. Il est séparé de tout péché. Et que son esprit est saint. On dit le Saint-Esprit, ou on dit l'Esprit Saint, l'Esprit de sainteté. Dieu est saint. Paul nous avertit dans Galates chapitre 6, versets 7 et 8, que Dieu est saint et ne change jamais. Verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Dieu est saint, il est juste. Il ne peut jamais... Dieu est saint et juste, et il ne peut pas condamner chez le pécheur, chez le non-croyant, ses péchés, et puis fermer ses yeux quand les chrétiens pêchent. Ça ne sera pas juste de la part de Dieu. Non, Dieu est oui et amen. Dieu est comme un sens unique. OK? En revanche, nous, les hommes, nous, on est tordus parce que nous sommes pécheurs. Dieu est droit, il est juste, il est saint. Il montre le bon chemin. Et il avertit des conséquences de choisir le mauvais chemin. Donc je veux spécifier que Dieu n'autorise jamais le péché. Il ne peut pas. Car autoriser le péché serait la même chose que commettre le péché. Dieu ne peut jamais. Il ne pêche jamais. Il est incapable de pécher. Donc l'Esprit qui habite en nous, comme je vous ai déjà dit, il est saint. Une personne animée de l'Esprit agira selon la vie divine qui est en lui. C'est pour cela qu'on parle de la nouvelle naissance. Dieu vient habiter, nous vivifier, nous donner cette grande capacité de plaire à Dieu. C'est ce que Jean veut dire quand il dit « L'enfant de Dieu ne peut pas pécher » dans 1 Jean 5, 18. Quand on marche dans l'Esprit, on ne peut pas pécher. Quand on abandonne de marcher avec Dieu, eh bien, on agit comme les êtres humains. Et oui, on peut bien pécher, et on va pécher. Donc, la vie ancienne est toujours présente dans le croyant aussi longtemps que nous restons dans notre corps mortel. Si un croyant néglige sa vie spirituelle, il va pécher. C'est obligatoire. Mais on n'a jamais le droit de commettre, ou ni la permission, on n'a pas le droit ni la permission de commettre un sort de ses péchés contre Dieu. Même Adam n'avait pas le droit à pécher. S'il avait eu le droit de pécher, eh bien, ça n'aurait pas été un péché. Si c'était dans la légalité de pécher, il n'aura pas péché. Dieu a dit ne pas le faire, il n'aurait pas dû le faire. C'était en transgressant la volonté de Dieu que Adam a péché. Le chrétien ne devrait jamais parler contre la sainteté ou la justice de Dieu, en disant ou même en suggérant que quelqu'un aurait le droit à pécher. Un tel propos revient à renier la vie nouvelle et revient à enseigner un salut sans le Dieu de sainteté. Lorsque Dieu sauve une personne de ses péchés, cette personne ne devrait pas vouloir y retourner. Il a reconnu que cette vie était de mal, était du péché, le condamné. Il a invoqué le Seigneur Jésus pour le sauver. Pourquoi retourner? Aller à l'avant dans la volonté de Dieu. Et c'est ainsi que Paul exhorte les chrétiens dans Galates chapitre 5 et verset 25. Si nous vivons par l'Esprit, si nous sommes sauvés, marchons aussi selon l'Esprit. Autrement dit, si vous êtes sauvés, vivez comme un chrétien. Ne vivez plus comme un pécheur. Notre résident, donc quand je dis notre résident, je veux dire le Saint-Esprit, d'accord? Notre résident, celui qui demeure en nous éternellement, est l'Esprit de vérité et de prophétie. Jésus a promis dans Jean 14, 16, donc je vais lire quelques bribes entre le verset 16 et 20. Donc ce n'est pas tout le texte, donc vous devez lire 16 à 20 à la maison. Donc Jésus dit dans Jean 14, 16, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. C'est une promesse, c'est la prière, mais c'est une promesse. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir. Il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Donc, Jésus dit, je viendrai à vous. Il veut dire dans la personne du Saint-Esprit qui est dans la Trinité lié à Jésus, qui est lié au Père. Comme Jésus dit, le Père en moi, et moi en le Père, et vous en nous, et nous en eux. OK? Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Verset 20. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Donc là, il parle de la réception du Saint-Esprit après la résurrection, après son ascension. Notre résident nous enseigne. Jean 14, 26 dit, mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Notre résident nous conduit. Jean chapitre 16, verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Verset 14. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Par le Saint-Esprit, nous rendons témoignage selon la vérité. Dans Jean 15, 26, nous lisons, « Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part de mon Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. » Après, dans Jean 17, 18, nous lisons, « Comme, donc il parle, Jésus parle à son Père, « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » C'est-à-dire pour l'évangélisation. Actes chapitre 1, verset 5, Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, pas 2000 ans plus tard, attention, dans peu de jours, à Jérusalem, hein, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc j'ai expliqué ce mot au début du message. Verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Ah, même la France, n'est-ce pas?
Amen.
Même la réunion. Hein? C'est évident que nous devons rendre témoignage. Mais le fait de rendre témoignage n'est pas la seule chose que Dieu veut des croyants. David, déjà 1000 ans avant Jésus, rendait témoignage concernant Dieu. Mais maintenant, depuis la crucifixion, la résurrection et l'ascension du Seigneur Jésus-Christ, Dieu demeure dans chaque croyant en Jésus-Christ par la présence de son Saint-Esprit. Pourquoi? Afin qu'il puisse vivre d'une manière qui plaît à Dieu. Jean chapitre 14, verset 23, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » Gardera ma parole, ce n'est pas mémoriser. Gardera ma parole, c'est connaître, peut-être mémoriser, mais mettre en pratique. Il va le respecter, il va le faire. « Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Par le Saint-Esprit, donc je le répète, hein, par le Saint-Esprit, la Trinité demeure chez le croyant. Ce qui est mis en avant, c'est normalement, c'est le Saint-Esprit, mais comme Paul a dit au début du message aussi, Christ vit en moi. Christ vit en moi. Donc on a en nous le Saint-Esprit, mais on a en nous le Christ. Et ensemble, nous en adressons à notre Père céleste. Donc, je vais faire une petite récapitulation de ce qu'on a déjà dit concernant le Saint-Esprit. L'Esprit est Dieu, la troisième personne de la Trinité. Il est saint. Jésus nous a lavés de tous nos péchés par l'Évangile, et donc le Saint-Esprit de Dieu est venu demeurer éternellement chez les croyants. Il ne pouvait pas faire ça avec David. Jésus n'avait pas fait l'acte d'effacer les péchés. Mais maintenant que c'est fait, le Saint-Esprit vient chez les croyants de manière permanente, pour toujours. De ce fait, notre corps est devenu le temple de Dieu. Par le Saint-Esprit, nous entretenons une relation familiale avec la Trinité. Le Saint-Esprit, le Consolateur, ne nous quittera jamais. C'était la promesse de Jésus. Il nous enseigne, le Saint-Esprit nous enseigne, il nous conduit et il nous fait témoigner de la vérité en Christ. En plus de tout cela, en continuant, parce que là c'est un résumé de tout ce qu'on a dit avant, en plus de tout cela, le Saint-Esprit travaille à la sanctification du croyant par la moyenne de sa parole. Jean 17, dans sa prière, Jésus parle à son Père concernant nous. Il dit, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Alors, cette idée-là que Dieu nous enseigne, le Saint-Esprit nous enseigne, ça n'exclut pas les fonctions de l'Assemblée et des enseignants dans l'Église locale. Donc là, vous pouvez regarder plus tard Galates chapitre 6, verset 6, où Paul mentionne ceux qui enseignent et ceux qui sont enseignés. Mes amis, la vie chrétienne est un chemin à sens unique. Je vous ai dit, Dieu est comme un sens unique. Et donc la vie chrétienne est comme un sens unique. Pourvu que nous marchions selon l'Esprit. Pourvu que nous vivions selon la vérité de la foi, donc ce que Dieu nous enseigne dans sa parole, et par la foi, et en confiance en Dieu. Ceci veut dire que Dieu veut voir chez le croyant la mise en pratique de la vie chrétienne par le Saint-Esprit. Marcher, hein, si nous marchons, marcher selon la nature humaine, notre humanité, ne peut produire que les œuvres de la chair, les œuvres qui conduisent à la condamnation. Galates 5, 3, chapitre 5, verset 3, la seconde moitié dit, « Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair, vivre votre vie chrétienne comme une série de règles et d'une structure ?» Dans Galates chapitre 3 et verset 11, un peu plus loin, un peu avant, Paul dit non, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Tous les jours, nous vivons devant Dieu par la foi. Il faut que notre foi soit basée sur la parole. Ce n'est pas une foi ignorante. Être sauvé, c'est avoir Christ en nous. C'est héberger l'Esprit de sainteté. C'est invoquer le Père Céleste comme Papa. Ce sont les atouts d'une relation intime et éternelle avec Dieu. Galates chapitre 5, verset 16 à 18 nous dit, « Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Donc c'est bien entendu, et il va le dire par la suite, si on ne marche pas selon l'Esprit, on va accomplir les œuvres, les désirs de la chair. C'est office. Hein, je ne dis pas le chose le plus grossière, mais c'est quand même, quand on est dans la chair, on est dans la chair. Dieu n'a aucun plaisir. Car la chair a les désirs contraires à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit a donc les désirs contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Donc ça, c'est en particulier la loi de Moïse, mais l'idée des règles. Et il veut dire par cela, quand on marche avec Dieu, il n'y a pas de faute à condamner, car il n'y aura pas de péché. Quand on marche avec Dieu, dans la volonté, dans la sainteté, quand on marche avec Dieu, on ne commet pas les péchés et donc il n'y a rien à condamner. En fin de compte, chez les enfants de Dieu, Jésus désire voir les œuvres de la foi, les fruits de la vie divine en nous, par le Saint-Esprit, et la pratique de l'amour. Jésus a prié. Donc, il a dit, je veux dire, concernant nos œuvres, il dit dans Jean 14, 12, « en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grand, parce que je m'en vais au Père. » Donc, l'idée, avant que je termine la lecture, l'idée, c'est que c'est normal que Jésus, le Fils de Dieu, ait fait le miracle. Il a fait des grandes choses. Mais ce n'est pas naturel que nous faisons de telles choses. Si nous faisons quelque chose pour Dieu, c'est parce que Dieu est en nous pour manifester sa pouvoir à travers notre faiblesse. Et c'est pour cela que nos œuvres sont plus grandes, Jésus dit, que les siennes. Pas qu'ils sont vraiment plus grands, mais c'est relativement, ce n'est pas naturel, c'est surnaturel. Verset 13, « Et tout ce que je vous demanderai, et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. » Alors tout de suite, quelqu'un va demander à gagner le loto, et quelqu'un va demander à avoir une Mercedes. Ce n'est pas le point. Ici, c'est dans la volonté de Dieu, marchant avec le par le Saint-Esprit, dans la foi, c'est dans la vérité. Et on sait que voilà, Dieu veut qu'on fasse ça. Seigneur, aide-moi à faire ça. Et moi, voilà, ça va se passer.
Amen.
Okay. Ah ben, je vais souligner un mot. Demander. Demander. OK?
Amen.
Dieu fera des choses, je change une phrase que j'ai entendue quelque part, Dieu fera des choses extraordinaires par vous, les gens ordinaires. Question, êtes-vous prêt à servir Dieu? Êtes-vous prêt à faire des choses extraordinaires par la puissance du Saint-Esprit à travers vous? C'est ça la question. eh bien, demandez à Dieu pour que vous soyez utile à son service. Ça, c'est à Dieu de choisir comment vous utilisez. Quel est votre service? Mais si vous n'êtes pas disponible, il va choisir d'autres personnes qui sont disponibles. Il faut demander. Alors, concernant les fruits, et je répète concernant les fruits, arrière-plan, Jésus a dit, il faut demander. OK? Et quand je vais lire le prochain texte, vous allez voir, donc j'espère que vous allez repérer, il parle du fruit, de plus de fruits et de beaucoup de fruits. Ah, j'ai trouvé intéressant cette progression, fruits, plus de fruits et beaucoup de fruits. Jésus a dit dans Jean chapitre 15, verset 1, « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. » Je saute un peu. « Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Je saute un peu, verset 4. « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. » Je saute un peu. « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » C'est pour cela quand on dit que si on ne marche pas selon le Saint-Esprit, on va tomber dans la chair. Et dans la chair, ça ne vaut rien. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez. Voilà, encore. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Verset 11. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie, c'est-à-dire la joie de Jésus, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Verset 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Un petit résumé de cette pensée. Les vignes produisent des raisins. Ainsi, le Saint-Esprit de Dieu produit ses traits de caractère dans ses enfants. OK, dans la parabole, là, la sève, c'est le Saint-Esprit. Il vient à travers Jésus qui est le plante et dans les raisins que nous sommes. OK? Galates chapitre 5, versets 22 à 24. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Donc Dieu ne peut pas vous condamner quand vous agissez selon son caractère. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Okay? Donc nous notons en premier concernant ce verset-là qu'il n'y a pas d'œuvre particulière dans cette liste. Hein, quand on relit ça, et on va le revoir, mais il n'y a pas une œuvre, il n'y a pas d'évangélisation. Il n'y a pas de prédication, il n'y a même pas la prière dans cette liste du fruit du Saint-Esprit. Selon 1 Corinthiens chapitre 13, nos œuvres, donc évangélisation, prédication, prière et œuvres diverses, nos œuvres doivent être gouvernées ou animées par les traits du caractère de Dieu, dont le premier dans la liste est l'amour. Vous vous souvenez qu'on a fait l'étude sur 1 Corinthiens chapitre 13. Si je fais même fait déplacer les montagnes, mais je n'ai pas l'amour, on n'est rien. Hein? Regardons un peu plus près donc, ces fruits de l'esprit. Donc, on dit fruits de l'esprit, ça veut dire que c'est ce que l'esprit produit dans ses enfants, dans les enfants de Dieu. L'amour, donc, ceci est l'altruisme, c'est la bienveillance. C'est la bonne volonté et c'est au dépens de moi-même, de soi-même. C'est pour le bénéfice de l'autre. La joie, voilà, c'est un peu un mot, voilà, la joie. La paix, c'est la tranquillité d'esprit, le repos et donc l'assurance. Le Saint-Esprit produit en nous le repos et l'assurance. La patience, c'est l'idée de supporter longtemps les difficultés ou les circonstances. La bonté, donc il y a la bonté et la bénignité ou la bienveillance selon la traduction. Deux choses différentes. Donc la bonté est exprimée donc, par la gentillesse, l'excellence, la droiture, la douceur. Et la bienveillance ou la bénignité, c'est la bonté en tant que qualité personnelle. C'est l'essence de l'être. Donc qui va s'exprimer par ces autres choses. La foi, c'est la croyance, c'est la confiance, c'est la fidélité. Ceci est une assurance ou conviction morale sur la base de la vérité et donc la constance dans cette profession. La douceur, donc ça revient à parler de l'humilité. Et comme je vous ai donné le proverbe 16:32, celui qui est maître de lui-même vaut mieux que celui qui prend des villes. Donc la maîtrise de soi, c'est le contrôle sur son propre corps, que ce soit nos pensées, nos paroles, où on regarde, etc. Donc l'abstinence des plaisirs malsains et la tempérance. Concernant les perfections de l'amour, Paul dit dans Galates chapitre 5, versets 5 et 6, « Pour nous, nous les croyons, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice, car en Jésus-Christ, donc je résume un peu, ce qui compte est la foi qui agit par l'amour. » Ok? Ce n'est pas exactement le verset, j'ai résumé un petit peu. « Ce qui compte est la foi qui agit par l'amour. » Et Paul termine dans chapitre 6, verset 19, Galates 6, verset 9 et 10. « Ne nous lassons pas de faire le bien. » Donc, faire le bien, c'est manifester l'amour. « Car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. » Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Donc, aimer tout le monde. Et surtout, pratiquer le bien envers les frères en la foi. Donc, aimez-vous les uns les autres. Donc, en conclusion, en résumé, aujourd'hui, nous avons parlé du Saint-Esprit et de ses fruits. J'ai dit que le Saint-Esprit est le cœur et la source de la vie chrétienne. Dieu habite en vous si vous êtes croyant en Jésus-Christ. Il vous enseigne par sa parole pour que vous deveniez utile à lui. Je vous ai posé des questions. Voulez-vous être utile à Dieu? C'était la question. Et puis je vous ai dit, ah ben, il faut demander. Il faut vous dresser à Dieu pour devenir utile à Dieu dans son champ. La vie de Christ en nous, ou en vous, produira les fruits de l'Esprit. Pourquoi? Parce que ça coule de source. Mes amis, marcher selon l'Esprit, c'est voyager sur le chemin qui est Jésus. Que Dieu vous bénisse. Et à la prochaine fois de nos amis qui sont sur Internet.